بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ce qui suit a pour titre voilà ce qui peut se cacher derrière un site géré par des inconnus. Retiendrons-nous les leçons ? On peut également donner pour titre, bien que ce soit un titre secondaire, remarques et compléments concernant le projet Jannah TV et son communiqué. Je qualifie ce second titre de secondaire car mon but premier est de clarifier un certain nombre de points qui concernent des conceptions erronées que un certain nombre de personnes se réclamant de la salafie peut avoir. Au-delà de ce qui concerne le projet télévisé Jannah TV, ses responsables, le regard critique que j'ai pu porter sur la présentation de ce projet et la réponse qu'ils ont pu par la suite diffuser. Donc, en date du 24 Ramadan 1437, j'ai diffusé un audio intitulé « Gare aux prétentions, regard critique porté sur la présentation du projet Jannah TV ». Il faut savoir que les responsables du projet Jannah TV sont également les gérants du site « Rappel du jour ». Cet audio a été suivi d'une réponse provenant du dit site. Et je souhaiterais apporter certaines précisions à propos de mon intervention et de leur réponse, estimant que cela est nécessaire pour deux raisons. Premièrement, le discours de ce site reflète en réalité une tendance se propageant dans les rangs d'une partie de la jeunesse musulmane, faisant du monde virtuel d'Internet son seul lieu d'apprentissage de la religion, ne prenant pas assez de précautions dans la sélection des sites qu'elle prend comme référence. Deuxièmement, le site et la réplique qu'il diffusa contient un certain nombre de règles prônées par les partisans de l'hérésie. Cette réponse est organisée sous forme de points que j'énumère dans un premier temps, après quoi j'en entamerai la lecture si Allah tabaraka wa ta'ala le permet. Donc premièrement, l'importance de la précision dans les propos que l'on tient et dans la compréhension des propos d'autrui. Deuxièmement, le rejet des querelles en religion. Troisièmement, les erreurs et approximations présentes dans la réponse de Jannah TV. Quatrièmement, l'éveil islamique en question. Et cinquièmement, à propos du projet Jannah TV. Donc le premier point concerne l'importance de la précision dans les propos que l'on tient et dans la compréhension des propos d'autrui. Un détail a apparemment échappé à un certain nombre de personnes, y compris certaines ayant diffusé mon audio, à savoir que la critique que j'ai émise visait en premier lieu la présentation, comme cela apparaît dans le titre. Quant au projet en lui-même, je ne l'ai abordé que de manière succincte et secondaire. Deuxièmement, le rejet des querelles en matière de religion. Les personnes prenant part à mes assises de cours et de traduction, dont vous faites partie, barakallahu fikoum, et qui de manière plus générale sont amenées à me côtoyer, savent que je n'agrée pas que l'on fasse de mes interventions des objets de polémiques, de querelles et de disputes. Il m'est même arrivé de demander à ce que soient supprimées certaines paroles pouvant laisser apparaître le fait de faire de certains des discours ou positions que je peux soutenir des objets de dispute. Cela étant basé sur les principes connus chez nos pieux prédécesseurs, nous exposons la sunna, mais n'en faisant pas un objet de querelle et de controverse. Partant de là, je demanderai aux frères qui souhaiteraient contribuer à la propagation de cette réponse de se contenter de la diffuser sans entrer dans des polémiques à son sujet. Troisièmement, les erreurs et approximations présentes dans la réponse de Jannah TV. La réponse du site Jannah TV contient un certain nombre d'erreurs scientifiques et méthodologiques flagrantes. Et ici, donc, j'utilise bien le terme méthodologique. Parmi lesquelles, premièrement, une approche erronée de la prédication, tendant à établir une scission inquiétante entre les prédicateurs et étudiants d'une part, et les différentes institutions se voulant vectrices de projets positifs pour la communauté d'une autre. Cela se manifeste notamment par le fait de prétendre que l'on ne parle pas le même discours, que pour ma part je serai stricto sensu, c'est ce terme qu'a utilisé le porte-parole du site dans sa réponse, que je serai stricto sensu dans la prédication, la traduction et la publication, et que ce site serait dans, je cite, l'entrepreneuriat, et qu'il serait une start-up permettant d'apporter à la communauté des aspects positifs. Au-delà des personnes, il est inquiétant de constater que le fait de tenir un site islamique soit considéré comme distinct du domaine de la prédication, de la traduction et de la publication. Et si ceux qui se lancent dans ce genre d'initiative ne parlent pas le discours de la prédication, alors quel discours vont-ils tenir? Le site Jannah TV nous a certes donné un aperçu de la réponse en adoptant tantôt le langage journalistique et tantôt le langage de l'entrepreneuriat et du marketing. Deuxièmement, deuxième point dans lequel se manifeste cette scission, le fait d'exposer une position relative au site internet géré par des inconnus et de faire allusion au fait qu'il est possible que les étudiants et prédicateurs aient des positions différentes tout en faisant prévaloir leur propre position basée sur leur propre réflexion. C'est-à-dire que le porte-parole de ce site-là a exposé la position des gérants de ce site et des acteurs de ce site concernant les sites internet gérés par des inconnus, puis il a fait allusion au fait qu'il est possible que les étudiants et prédicateurs aient des positions différentes. Puis il a fait prévaloir leur propre position, c'est-à-dire à eux-mêmes, les acteurs de ce site-là, basés sur leur propre réflexion. Ça me rappelle un vers de poésie célèbre qui pourrait leur être adressé. Ils disent « Cela n'est pas permis selon nous ». Mais qui êtes-vous au juste pour pouvoir dire nous? Qui êtes-vous pour donner votre avis? Et qui êtes-vous pour le faire prévaloir sur l'avis de personnes que vous-même vous qualifiez comme étant des prédicateurs et des étudiants? Cet état d'esprit est bien loin du discours des gens de savoir qui renvoient la masse des musulmans vers les ulama et considère les étudiants et prédicateurs tels des ambassadeurs ayant pour fonction de lier la masse des musulmans aux ulama. Quant au commun des musulmans et aux étudiants novices, qui détiennent certaines compétences, ils se doivent de les mettre au service des ulama, étudiants et prédicateurs. Et en aucun cas, ils ne doivent se démarquer d'eux. La question suivante fut posée au Cheikh Ahmed al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Un questionneur de France dit « Nous gérons un site salafi français nommé Furqan. Nous nous en tenons aux paroles des gens de savoir en matière de monothéisme, tawhid, de dogme, de méthodologie, de fiqh, etc. Nous incombe-t-il de connaître l'ensemble des individus et chaînes déviants? Et si nous ne les connaissons pas tous, nous incombe-t-il de fermer notre site? » L'érudit, le père, le Cheikh Ahmed al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, répondit « De toute manière, il vous est obligatoire, s'il n'y a pas parmi vous d'étudiants, de vous accompagner d'étudiants salafis et d'exposer les paroles que vous prenez des gens de savoir aux gens de savoir eux-mêmes, afin que vous sachiez si les dites paroles sont toutes correctes ou s'il peut y en avoir qui sont sujette à des remarques. Puis après cela, vous pouvez diffuser ces paroles. Quant au fait que vous preniez ces paroles dans leur intégralité, sans distinction, alors que vous n'êtes pas apte à distinguer, c'est une chose qui ne convient pas, et il se peut que vous diffusiez une parole dont vous ne saisissez pas la portée, et qui ne contient ni bien ni intérêt pour la prédication salafi, la prédication de vérité. Fin de citation. En outre, il est à craindre que chercher, sciemment ou pas, de manière délibérée ou pas, à opérer cette scission, apparaissant dans le discours tenu par le porte-parole de Janna TV, s'apparente énormément à une moindre mesure au discours de ceux qui disaient que nous devons revenir aux ulama dans l'aspect théorique de la religion et aux prédicateurs à propos de la réalité du terrain, car ces derniers la connaissent mieux. Excepté que cette fois-ci, dans le discours de Janna TV, la scission que l'on trouve est opérée entre le commun des musulmans et les étudiants et prédicateurs, et non pas directement avec les ulama. On pourrait être tenté de mettre en avant le fait que l'on trouve dans la rubrique « recommandations » du site la chose suivante. Donc, je cite, j'ouvre les guillemets. À ce titre, avant de commencer à œuvrer, Janna Télévision s'est assurée d'apporter un contenu conforme aux valeurs islamiques et fiable, et ceci en se concertant avec les savants et en leur demandant leur avis. Janna Télévision s'est donc dans un premier temps tournée vers les prédicateurs francophones pour leur soumettre le projet et voir en retour leurs avis sur ce dernier. Nous avons également contacté les grands savants de ce monde, et leur avons présenté notre initiative. Voici leur retour. Après quoi ils citèrent un échange avec le cheikh Ali Reda Wafakahullah. J'attirerai votre attention vers certains points en soulevant les questionnements suivants. Qui sont les prédicateurs francophones en question? Quel est leur avis à propos du projet? Il n'a pas fait mention. Pour ma part, avant d'émettre mes critiques sur la présentation de ce site, j'ai consulté un certain nombre de prédicateurs salafis francophones, et un seul m'a dit être au courant de ce projet et avoir été consulté. Il ajouta qu'il avait prodigué des conseils à ses responsables, sans qu'il ne soit pour autant forcément suivi. Le deuxième questionnement est le suivant. Est-il correct de présenter le cheikh Ali Reda tel un grand savant? Deuxièmement, n'a-t-il pas dit qu'il est impératif qu'un étudiant confirmé se charge de la traduction? Car si vous retournez à l'échange qu'il y a eu entre les responsables du site et le cheikh en question, vous vous rendez compte qu'il leur a dit qu'il est impératif qu'un étudiant confirmé se charge de la traduction. Mais ça, les lecteurs francophones, les internautes francophones ne peuvent pas le savoir, car l'échange, il est uniquement en arabe. Il n'est pas disponible en français, bien que le fait d'avoir accès à la traduction soit proposé. Où est cet étudiant confirmé? Est-ce Mohamed Abou Muslim, présenté comme gérant de l'équipe de traduction dans la page d'accueil du site? Qui est Mohamed Abou Muslim? Nous allons répondre à cette dernière question plus loin, si Allah le veut. Parmi les erreurs et approximations également, le fait de soutenir que lorsqu'une personne est critiquée, elle est forcément mise en garde selon les règles juridiques. Règles totalement infondées. Car émettre une critique ne signifie pas forcément que l'on met en garde contre la personne qui en est l'objet. De même que mettre en garde contre un individu ne signifie pas forcément qu'on le taxe d'hérétique ou d'innovateur. Pour illustrer cela, je voudrais vous faire part d'une réponse donnée par le cheikh Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, qu'Allah le préserve, à notre frère Sabri Abu Abdelrahman, qui lui a posé la question suivante. Cheikh, qu'Allah te préserve, est-ce que le fait de répliquer un individu implique forcément que l'on met en garde contre lui, ou est-il impératif d'indiquer formellement que l'on met en garde? Cela n'est pas systématique, répondit le cheikh, qu'Allah le préserve. D'autant plus que les gens de savoir ne cessent de répliquer les uns aux autres sans pour autant mettre en garde, hormis contre la parole qui est l'objet de la critique, dépendant de la vision de celui qui est justement l'auteur de cette critique. Qualifier d'hérésie est une chose, continue une tierce personne. Et le fait qu'un individu spécifique se voit appliquer la sentence y correspondant est une autre chose. Et cela concerne également le domaine de l'excommunication, à savoir le fait de statuer de la mécréance de quelqu'un. N'est-ce pas, Cheikh ? Effectivement, répondit-il. Donc le Cheikh a approuvé cette chose-là en disant « effectivement ». Donc le fait de dire que lorsqu'une personne est critiquée, elle est forcément mise en garde selon les règles juridiques, c'est une règle totalement infondée. Et le fait d'affirmer cela est d'autant plus inquiétant que le porte-parole de Jannah TV le fait d'une manière tout à fait naturelle. Troisième point que l'on peut soulever dans ce chapitre, le fait que le porte-parole du site a cherché à annihiler le principe fondamental consistant à questionner à propos des gens de qui on est amené à acquérir le savoir religieux, en ne faisant pas la différence entre le fait de présenter les personnes étant en charge des fonctions d'enseignant et de traducteur, et celui de présenter l'ensemble des personnes se trouvant derrière chaque site ou chaque maison d'édition islamique, y compris dans des domaines purement administratifs et financiers. La remarque suivante, qui est liée à cette dernière, concerne le fait qu'il est argumenté, afin de légitimer le fait de ne pas questionner à propos des gérants des sites internet, en assimilant leur site à une maison d'édition et en disant que si, par exemple, des maisons d'édition étaient critiquables, leur cas serait dévoilé, mais que la base est la présomption d'innocence et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'avoir le bon soupçon envers nos frères. Voilà leur argument. Et au risque d'être à nouveau accusé de me fier à de simples biais cognitifs, parce qu'ils m'ont accusé de ça, je souhaiterais attirer l'attention vers le fait que cet argumentaire est le même que celui avancé par Hatim Abu Abdillah pour soutenir le fait que la base chez le musulman est qu'il est salafi. C'est exactement le même argumentaire, la même argumentation. Je dis, en réponse, louons Allah du fait que nos pieux prédécesseurs n'aient pas agi ainsi lorsqu'il s'agissait de recueillir les hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin d'exposer leur méthodologie en la question, je voudrais citer certains récits. Mujahid a relaté que Bushayr al-Adawi est venu vers Ibn Abbas radiallahu anhuma et commença à transmettre certains récits en rapportant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tel est tel hadith. Mais Ibn Abbas ne prêta attention ni à son discours ni à sa personne. Bushayr lui dit alors, « Oh Ibn Abbas, qu'ai-je donc à ne pas te voir prêter l'oreille au hadith que je transmets, alors que je ne fais que transmettre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ai-je donc à ne pas te voir y prêter attention ?» Fut un temps, lui répondit Ibn Abbas, lorsque nous entendions un homme dire, « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, nos yeux se rivaient sur lui. » Et nous tendions attentivement l'oreille à ces paroles. Cependant, lorsque les gens ont commencé à faire tout et n'importe quoi, nous nous sommes mis à ne prendre des gens que ce que nous connaissions. Et ce hadith, plutôt ce récit, on peut le retrouver dans l'introduction de l'authentique de Muslim. Dans le chapitre de l'interdiction de rapporter les récits transmis par les rapporteurs faibles, et de la prudence à avoir quant à leur mémorisation. Chapitre que l'on retrouve bien sûr dans le commentaire d'An-Nawawi, car les titres de chapitre sont donnés par ce dernier. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Muhammad ibn Sirin a dit, « Certes, ce savoir est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. » Et on peut retrouver ce récit dans la même référence. Des paroles fortes allant dans ce sens ont également été rapportées de l'imam Malik, Qu'Allah lui fasse miséricorde, qui disait: ce savoir représente ta chair et ton sang, et à son sujet tu seras questionné le jour de la résurrection. Regarde donc attentivement de qui tu cherches à l'acquérir. Et cette parole, on peut la retrouver dans Al-Muhaddith Al-Fasil Bayn al-Rawi wal-Wa'i de Ar-Ramah al-Muzi, chapitre de ceux qui ont dit que le savoir est religion. Regardez donc de qui vous cherchez à l'acquérir. Une question se pose à présent: qu'en est-il de la présomption d'innocence mise en avant par l'auteur de cette réponse? Ibn Abbas radiyallahu anhuma y a fait en quelque sorte allusion dans le récit relaté par Mujahid, de même que Muhammad ibn Sirin, en disant: jadis, et cette parole on peut également la retrouver dans l'introduction de l'authentique de Muslim, Muhammad ibn Sirin a dit: jadis, on ne questionnait pas à propos des chaînes de transmission des narrations que l'on rapportait. Mais lorsque les troubles et dissensions sont survenus, nous avons commencé à dire: citez vos hommes, afin que l'on considère les adeptes de la sunna, et que l'on prenne en compte les hadiths qu'ils rapportaient, et que l'on considère les hérétiques, et que les hadiths qu'ils rapportaient soient rejetés. La présomption d'innocence en matière d'apprentissage a donc disparu depuis que les troubles et dissensions sont survenus dans la communauté, il y a plus de 1400 ans. C'est ainsi que les pieux prédécesseurs de cette communauté, questionnés à propos des individus de qui ils voulaient acquérir le savoir, à tel point qu'il leur était parfois dit: cherchez-vous à le marier. On peut retrouver cette parole dans Al-Kifaya d'Al-Khatib Al-Baghdadi. Notons que s'ils questionnaient à propos d'une personne, c'est qu'ils connaissaient leur nom. Qu'a donc le porte-parole de Jannah TV à prétendre que c'est à l'internaute de chercher à se renseigner sur les responsables de leur projet, alors qu'ils n'ont même pas pris la peine d'informer, ne serait-ce que de leurs identités? Et ce discours est le même que celui des gérants de certaines maisons d'édition, tels qu'Al-Bayyina et Dar al-Muslim, qui n'indiquent pas les noms des traducteurs, puis qui, lorsqu'ils sont questionnés à leur sujet, répondent que le choix des équipes de traduction relève de leur responsabilité. Et que si les clients veulent savoir qui ils sont, ils peuvent se rendre dans leurs locaux. Subhanallah. Où est passé le principe « citez vos hommes » en vigueur chez nos pieux prédécesseurs, et que l'on retrouve dans cette parole d'Ibn Sirin? Quand on fait de dire que si les clients veulent savoir qui ils sont, ils peuvent se rendre dans leurs locaux, c'est là une réponse qui s'oppose à la méthodologie des pieux prédécesseurs, qui, quant à eux, questionnaient les gens à propos des individus dont ils voulaient connaître l'intégrité et l'aptitude, et non pas les individus en question, dont ils observaient plutôt les paroles et agissements, et analysaient les narrations en les confrontant notamment à celle des rapporteurs de hadith dignes de confiance, mais qu'ils ne questionnaient certainement pas à propos de leurs propres habilitations. De plus, cela s'oppose au bon sens. Car si les clients sont intéressés par des publications en langue française, c'est que la plupart du temps, ils sont novices, et donc dans l'incapacité de déterminer qui est habilité à traduire, voire même dans l'incapacité de distinguer l'adepte de la sunna de l'hérétique. Et je vous invite à analyser la réponse donnée par un gérant de maison d'édition lorsque la question suivante lui fut posée: pourquoi ne citez-vous pas les noms des traducteurs? C'est à cause de la jalousie régnant entre les prédicateurs, répondit-il. Que se cache-t-il derrière cette présumée jalousie? Certainement le fait que les traducteurs auxquels ils font appel ont été critiqués, et que comme beaucoup de gens, ils n'ont pas accepté ces critiques et se sont empressés de dire qu'elles sont motivées par la jalousie. Et ça a été le prétexte pour s'abstenir de citer les noms. Pour en revenir à Jannah TV et à son porte-parole, qu'Allah le guide, qu'a-t-il à qualifier le fait de chercher à connaître toute personne étant derrière tel et tel projet de paranoïa ou de troubles obsessionnels de comportement? en plus de l'exagération indéniable présente dans ce constat, on relève une contravention manifeste à la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, doublée d'un manque de respect flagrant à son encontre. J'ajouterai que bien qu'il ne soit pas forcément demandé de chercher à connaître l'ensemble des membres de chaque projet religieux, notamment ceux qui composent les équipes administratives et financières, il devient de plus en plus nécessaire d'être pointilleux. Ne trouve-t-on pas des prédicateurs, des enseignants et traducteurs salafis qui se font tromper et duper par des individus sectaires et qui se retrouvent à participer à leurs projets et contribuent au fait qu'ils acquièrent une certaine notoriété aux yeux des gens? Et avant même d'entrer dans tous ces détails, pour en revenir à nouveau à Jannah TV, pourquoi ne citez-vous pas vos noms? Quelle est la raison qui fait que vous ne citez pas vos noms? C'est une question qui est légitime. Le point suivant concernant le chapitre des erreurs et approximations, c'est que l'on peut relever un manque flagrant de rigueur scientifique dans la réplique. En effet, le porte-parole de Jannah TV a basé un certain nombre de réponses qu'il a apportées sur des propos qu'il m'a attribués mais que je n'ai pas tenus. Cela s'oppose sans nul doute aux règles régissant les discussions, débats et autres répliques et réfutations. Posons justement la base de ces règles-là à travers le verset dans lequel Allah a dit, dans la traduction approchée du sens de sa parole, « Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, mais qui, lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause de perte. Cela ne savent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur souverain des mondes ?» Surat al-Mutaffifin, versets 1 à 6. Le Cheikh Ibn Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans l'explication qu'il a faite de ce verset, ce noble verset nous prouve que, de la même manière qu'un homme cherche à récupérer son dû entièrement d'autrui, il est dans l'obligation de lui restituer tout ce qui lui revient, qu'il s'agisse de ses richesses ou des relations qu'il entretient avec lui. Cette façon d'agir concerne également les arguments et les opinions, car de la même manière qu'il est courant que lorsque deux hommes débattent d'un sujet, ils s'efforcent tous deux de montrer leurs arguments, il est obligatoire qu'ils mettent en évidence les arguments qui s'opposent aux leurs, y compris ce que l'opposant lui-même peut ignorer, et les analyser comme il le ferait pour les leurs. À cet instant, on distinguera l'équité de l'individu de son intolérance et de son esprit partisan. On distinguera sa modestie de son orgueil, et on distinguera sa raison de sa stupidité. Nous demandons à Allah de nous assister dans l'accomplissement de tout bien. Fin de citation, et vous pouvez retrouver cela à la page 1080 de l'exégèse du Cheikh Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. Parmi les exemples de procédés frauduleux présents dans la dite réponse de Jannah TV, premièrement, le fait de me reprocher d'avoir accusé les acteurs de ce site de vantard. L'auteur de la réponse en arrivant même à argumenter par la définition linguistique du terme vantardise, alors que je ne l'ai pas utilisé une seule fois durant toute mon intervention. De même que je n'ai utilisé aucun de ses dérivés. Donc, pendant plusieurs minutes, il a développé sur ça, et il m'a repris sur le fait de les avoir qualifiés de vantards, et de les avoir accusés de vantardise, en allant même jusqu'à sortir la définition du dictionnaire, alors que je n'ai pas utilisé une seule fois ce mot, ni ses dérivés. De plus, l'auteur de cette réponse ne sait apparemment pas faire la distinction pourtant fondamentale entre le fait de porter un jugement sur une parole et le fait de juger celui qui l'a prononcé. Or, dire d'une parole, en l'occurrence ici, que c'est une prétention, n'implique pas forcément que l'on qualifie celui qui l'a dite de prétentieux. Et je vous avais parlé précédemment de la réponse de Cheikh Mohamed Bazmoul concernant ce sujet, ce qui me dispense ici de la répéter. Deuxièmement, me reprocher d'avoir accusé les dix acteurs d'user de la méthodologie du parti d'Al-Ikhwan al-Muslimoun. L'auteur de la réponse allant même jusqu'à définir le terme méthodologie et à le distinguer du terme procédé en disant ce que Abdurrahman a soulevé, c'est un procédé et ce n'est pas une méthodologie, donc ce n'est pas correct qu'il qualifie cela de méthodologie. Donc en me reprenant sur le fait que j'aurais accusé les 10 acteurs, les acteurs de ce site, d'user de la méthodologie du parti d'Al-Ikhwan al-Muslimoun. Alors que je n'ai pas utilisé une seule fois le terme méthodologie. La seule chose que j'ai dite est que leur discours me rappelait celui de l'instigateur du CEP, et qu'on y retrouvait le même état d'esprit, à savoir le fait de jouer sur les sentiments en mettant en avant un constat alarmant afin d'introduire son sujet. De même que j'ai établi une comparaison entre le fait de qualifier la communauté d'inactive et l'usage de l'expression « éveil islamique »,« sahwal islamiyya ». Comparaison sur laquelle je vais revenir plus tard si Allah le veut. Là encore, je n'ai pas utilisé le terme méthodologie et uniquement soulevé le fait que l'usage de l'expression « éveil islamique » se retrouver dans les écrits de certains leaders du groupe d'Al-Ikhwan al-Muslimoun. Troisièmement, prétendre que j'ai établi une équivalence de jugement entre le site Jannah TV et le CEP, et m'avoir accusé d'anticiper les actes à venir du site au regard des actes du CEP. Je réponds là encore, la distinction fondamentale résidant entre le fait de porter un jugement sur une parole et juger son auteur n'est pas faite, malgré son caractère rudimentaire et basique. Et j'espère que vous ne m'en voulez pas de m'étaler autant sur tout cela. Et mon but, ce n'est pas de défendre ma personne. C'est de montrer l'incohérence et d'utiliser ces choses-là comme exemple illustrant ces accusations gratuites qui sont adressées de manière générale, non pas Abdelrahman Kolo, mettez-le de côté. Mais de manière générale, aux salafis. Sans cesse ce genre d'accusation, lorsque les salafis sont menés à émettre des critiques, elles sont portées. Peut-être pas dans ces termes-là, parce que là, ça c'est spécifique à l'audio que j'ai diffusé, mais on retrouve bien souvent le même état d'esprit. Donc, je cherche par là à vous inciter à être vigilant quand vous entendez ce genre de critique-là et à retourner aux paroles originales afin de ne pas vous retrouver à prendre comme argent comptant des accusations aussi gratuites qui sont portées. Donc on peut ajouter également dans le même registre le fait qu'ils aient prétendu que j'aurais traité les responsables et autres acteurs de ce site d'être des Ikhwan. En effet, l'auteur de la réponse a dit « Lorsque nous délaissons les Ikhwan, nous avons nos propres frères qui nous traitent d'Ikhwan. » Je dis « À quel moment ai-je, ne serait-ce que sous-entendu, qu'ils seraient des Ikhwan ?» Je le répète, mon intervention n'était qu'une critique visant des paroles et je ne me suis pas penché sur le jugement relatif aux personnes qui les ont prononcées. Également, le fait d'avoir prétendu que je les aurais accusés de dénigrer les efforts faits par les ulama, alors que je n'ai abordé la notion de dénigrement des ulama que dans le cadre d'un bref exposé visant à présenter le principe d'éveil islamique et que concernant la parole présente dans la vidéo de Jannah TV, je n'ai parlé que du dénigrement des efforts fournis par les acteurs de la prédication francophone. Et je dis, entre vous, moi, votre compréhension et vos accusations, il y a mon audio. Que quiconque souhaite vérifier la justesse de mes propos, y retourne donc. Parmi les marques de manque de rigueur scientifique, on peut également relever des traductions plus qu'approximatives du sens de certains textes. À titre d'exemple, le fait qu'à la 9e minute, le porte-parole de Jannah TV dise « L'imam Ibn al-Jawzi dans Al-Adab al-Shar'iyya, le volume 3, page 464, fait le tafsir, c'est-à-dire l'explication, du verset dans lequel Yusuf, alayhi salam, la traduction rapprochée, dit au gouverneur d'Égypte, « Je suis la personne la plus compétente pour pouvoir réaliser la tâche qui est de récolter, etc. » Fin de citation, donc des propos du porte-parole de Jannah TV. Je dis en réponse, premièrement, « Al-Adab al-Shar'iyya est un ouvrage écrit par Ibn Muflih. » Quant à Ibn al-Jawzi, il y est uniquement cité, c'est sa parole qui est citée. Mais le livre n'est pas d'Ibn al-Jawzi. Deuxièmement, où est l'explication du verset en question? Pourquoi ne pas la traduire? Est-ce dû au fait qu'elle ne concerne pas du tout le sujet? Rappelons que j'ai critiqué le fait de dire « Nous sommes le plus grand projet musulman francophone. » Quant à Ibn al-Jawzi, il a expliqué que le fait de faire les éloges de sa personne est permis lorsque cela, premièrement, est dépourvu de toute forme d'orgueil et de transgression, deuxièmement, est motivé par le fait de mettre en avant un droit, de faire régner une justice, ou d'annihiler une injustice, de mettre fin à une injustice. Ce sont ces conditions qui régissent le caractère permis de dire du bien de sa propre personne, et c'est à leur lumière que sont compris les récits mentionnés par l'auteur de la réponse. Il a cité plusieurs récits qui vont dans ce sens. Je soulèverai tout de même qu'il est faux de présenter cette question religieuse en disant que la vantardise est permise dans certains cas. Et ce, pour la simple et bonne raison qu'il est envisageable de ne dire du bien de soi-même et de ne faire ses éloges que de manière ponctuelle dans le cadre du besoin, sans pour autant être animé d'orgueil. Alors que la vantardise, comme l'a défini le porte-parole de Jannah TV, en citant le Larousse, est une habitude de se glorifier avec excès de ses qualités ou de ses actions, ce qui exclut d'emblée la possibilité de voir les deux conditions précitées être réunies. Donc si tu veux expliquer cette question-là, non, tu peux dire que il est permis dans certains cas de dire du bien de soi-même, de faire ses propres éloges, à deux conditions. Que cela ne soit pas fait par orgueil, vanité, et qu'il n'y ait pas de transgression dans cela, et deuxièmement, qu'il y ait une finalité louable qui soit recherchée. Naam. Le fait de mettre en avant un droit, de mettre un terme à une injustice, ou de faire valoir une marque de justice. Troisièmement, le verset auquel il est fait allusion est tiré de la sourate Yusuf. Allah, il dit, dans la traduction approchée du sens de sa parole, il dit, assigne-moi, c'est-à-dire Yusuf, a dit, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis certes bon gardien et connaisseur. En aucun cas, le superlatif n'est utilisé ici. La traduction proposée par Jannah TV est donc plus éloignée que rapprochée. En plus d'être très approximative, je vous rappelle donc qu'ils ont traduit cela en disant que Youssouf a dit au gouverneur d'Égypte, je suis la personne la plus compétente pour pouvoir réaliser la tâche qui est de récolter. Donc en aucun cas, ce superlatif qui apparaît dans la traduction proposée ici n'est présent dans le verset coranique. Et j'espère que cette approximation n'est pas motivée par un souci de faire pencher le sens de ce verset vers le soutien de leurs propos, à savoir le fait de se présenter comme étant le plus grand projet musulman francophone, auquel cas le manque de rigueur serait mélangé à de la malhonnêteté. Le quatrième chapitre concerne la question de l'éveil islamique, al-sahwa al-islamiyya. Dans le regard critique que j'ai porté sur la présentation du projet Jannah TV, j'ai soulevé le fait qu'après avoir diffusé un enchaînement de vidéos d'islamophobes tenant des propos virulents sur l'islam et les musulmans, le site Jannah TV a soutenu que la faute de la situation actuelle revient, j'ouvre les guillemets, à la communauté musulmane inactive depuis tant d'années, laissant les autres agir et parler en son nom. Je ferme les guillemets. Fin de citation. J'ai donc critiqué le fait de la qualifier d'inactive en établissant un parallèle avec l'utilisation de l'expression « éveil islamique ». Expression critique étant donné qu'elle implique que la communauté serait inactive ou endormie et qu'elle s'oppose au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne cessera de perdurer une faction de ma communauté secourue dans son attachement à la vérité. » Le parallèle établi n'étant que ponctuel et succinct, je n'ai cité que ces deux éléments en renvoyant vers le livre Al-Ajwibatul Mufida an As'ilatil Manahiji Al-Jadida, qui est une compilation de fatwas délivrée par le Cheikh Saleh Al-Fawzan et réunie par son élève, le Cheikh Jamal Ibn Furayhan Al-Harithi. Avant de répondre à l'argumentation du porte-parole de Jannah TV, je voudrais résumer de manière plus exhaustive, c'est-à-dire plus complète, les éléments prouvant que l'expression l'éveil islamique est à rejeter. Premièrement, cette expression n'est présente ni dans les textes du Coran, ni dans les textes de la Sunna, ni dans les paroles rapportées de nos pieux prédécesseurs. Deuxièmement, elle n'est apparue qu'au siècle dernier. Alors que s'il devait être dit que des périodes ayant jonché l'histoire de la communauté islamique ont connu l'éveil islamique, al-sahwa al-islamiyya, d'autres époques que l'époque contemporaine auraient été plus en droit de voir dire cela à leur égard, telle que l'époque de l'imam Ahmed, celle du cheikh de l'islam Taymiyya, ou encore celle du cheikh de l'islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah leur fasse miséricorde. Troisièmement, cette expression est le cheval de bataille des leaders du parti de l'Ikhwan al-Muslimoun, tel que le Qaradawi et Avani Mohamed Qutb, prenant le fait que leur parti a sorti la communauté de sa soi-disant et présumée léthargie. Quatrièmement, cette expression s'oppose au hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Ne cessera de perdurer une faction de ma communauté secourue dans son attachement à la vérité. » D'autant plus que le sens communément visé par ceux qui utilisent ce terme a une portée générale et revient à qualifier la communauté dans sa totalité d'endormie ou d'inactive avant l'apparition du dit éveil islamique. Sens qui n'est bien sûr pas visé par les quelques ulama de la sunna ayant utilisé ce terme et qui quant à eux ne visaient l'éveil que d'une partie de la communauté, comme nous allons le voir plus loin si Allah le veut. On compte parmi les ulama ayant critiqué cette terminologie, c'est-à-dire l'expression de l'éveil islamique, le cheikh Saleh al-Fawzan, qu'Allah le préserve, à qui la question suivante fut notamment posée. On peut remarquer qu'une partie de la jeunesse de l'éveil est dotée d'une grande ferveur dans la prédication, du fait qu'elle entend parler de la grande récompense promise aux prédicateurs. Mais on peut aussi remarquer que cette ferveur disparaît rapidement. Quel est donc votre conseil à ce sujet? Il répondit, j'ai une certaine retenue concernant l'utilisation de l'expression de l'éveil islamique, que l'on retrouve plus d'une fois dans les journaux, et ce du fait qu'elle contient une forme de rejet des efforts continus fournis par les ulama réformateurs à chaque époque, de même qu'un rejet des éléments positifs continuant à constituer cette communauté, et dont le monde n'est pas dépourvu, et ce jusqu'à l'avènement de l'heure. Fin de citation. Et la réponse est plus longue que cela, mais je me suis contenté donc de ce qui concerne la critique de cette expression-là. Et vous pouvez retrouver cette fatwa dans Al-Ajwiba Al-Mufida, à la page numéro 140, c'est la fatwa numéro 52. La question suivante fut également posée au Cheikh, et vous pouvez retrouver cela sur son site. J'entends beaucoup parler des savants de l'éveil islamique. Qu'est-ce qui est donc visé par ces termes? Il répondit qu'Allah le préserve. Par Allah, nous ne connaissons pas cet éveil, c'est là un terme nouveau. Il vise le fait que les musulmans sont actuellement éveillés alors qu'auparavant ils auraient été endormis, puis qu'ils se seraient réveillés. C'est une terminologie nouvelle dont nous ne reconnaissons pas la validité. Fin de citation. On compte également parmi les ulama ayant critiqué cette terminologie le cheikh Hamad al-Ansari et le cheikh Saleh ibn Muhammad al-Luhaydan et d'autres parmi les ulama, qu'Allah leur fasse miséricorde et préserve ceux qui parmi eux sont encore en vie. Quant au porte-parole du site Jannah TV, il a tenté de démonter la validité du parallèle que j'avais établi en faisant référence à des paroles des cheikhs Ibn Baz, Ibn Uthaymin et Al-Albani. Qu'Allah leur fasse miséricorde, dans lesquels on retrouve l'utilisation de l'expression éveil islamique. Et en mettant en avant le fait que le cheikh Ibn Uthaymin ait répondu au contre-argument s'appuyant sur le hadith par lequel j'avais argumenté. Sur le site, l'élément suivant est même ajouté, c'est-à-dire à l'écrit dans le site Jannah TV, ils ont même ajouté l'élément suivant. Nous répondons à notre aimable frère que cet éveil islamique a peut-être suscité des paroles à son encontre, néanmoins, les plus grands parmi les savants l'ont vu d'un bon œil. Fin de citation, après quoi référence fut faite aux grands ulama cités plus haut, les cheikhs Ibn Baz, Ibn Uthaymin et Al-Albani. Je dis, en réponse, premièrement, user de l'argument que tel savant est plus grand qu'un autre pour rejeter l'avis de celui que l'on considère moins grand, n'est pas un procédé correct, d'autant plus qu'il est possible que le moins savant voit juste. Ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Al-Fath, le volume 1, page 96, en commentaire du hadith d'Ibn Omar, selon lequel le prophète a dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et s'ils font cela, ils auront alors préservé de moi leur sang et leur bien, sauf pour ce qui est du droit de l'islam, et leur sort est auprès d'Allah. Et un commentaire de la discussion qui eut lieu entre Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agrée, concernant le cas de ceux qui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se refusèrent à verser la zakat. Et vous pourrez retrouver cette discussion dans les recueils authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim. Et je vous invite à la retrouver dans la version écrite de cette réponse qui sera prochainement diffusée si Allah tabaraka wa ta'ala le permet. Donc un commentaire du hadith et de la discussion qu'il y a eu entre Abu Bakr et Omar, Ibn Hajar a dit, dans ce récit, il y a une preuve indiquant qu'il est possible que la position conforme à la sunna n'apparaisse pas aux yeux de certains des grands compagnons tout en apparaissant à certains autres. C'est d'ailleurs pour cela que l'on ne doit pas prêter attention aux simples avis, même s'ils sont forts, lorsque la sunna s'y oppose. De même qu'il ne doit pas être dit, comment cela a-t-il pu échapper à un tel ? Et c'est Allah qui accorde la réussite. Je vais vous citer la discussion qu'il y a eu entre Abu Bakr et Omar, pour que cela soit clair, et qu'apparaisse le sens de l'argumentation d'Ibn Hajar. La discussion qu'il y a eu entre Abu Bakr et Omar est la suivante. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décéda, et qu'Abu Bakr lui succéda, certains bédouins apostasièrent. Omar ibn al-Khattab dit alors à Abu Bakr, comment peux-tu combattre ces gens alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. À partir de là, quiconque dit que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah aura préservé de moi ses biens et sa personne, sauf pour ce qui est du droit de l'islam et son sort est auprès d'Allah. Par Allah, répondit Abu Bakr, à l'objection de Omar ibn al-Khattab, je combattrai certes quiconque différenciera la prière de la zakat, car la zakat représente le droit relatif au bien. Par Allah, s'il me refuse ne serait-ce qu'une corde qu'il donnait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai du fait de ce refus. Omar de déclarer alors, par Allah, c'est alors que j'ai su qu'Allah avait inspiré à Abu Bakr de combattre, et c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était la vérité. Donc, en commentaire du hadith, et surtout de cette discussion-là, Ibn Hajar a dit qu'il y a là une preuve indiquant qu'il est possible que la position conforme à la sunna n'apparaisse pas aux yeux de certains des grands compagnons, tout en apparaissant à certains autres. C'est d'ailleurs pour cela que l'on ne doit pas prêter attention aux simples avis, même s'ils sont forts, lorsque la sunna s'y oppose. De même qu'il ne doit pas être dit, comment cela a-t-il pu échapper à un tel ? Et c'est Allah qui accorde la réussite. Deuxièmement, en plus d'être un procédé qui n'est pas correct, argumenté par le seul fait que tel savant ait ponctuellement utilisé une expression qui est critiquée de manière argumentée par un ou plusieurs autres ulama, est symptomatique de plusieurs mots. Premièrement, une non-assimilation du fait que les paroles des ulama ne sont pas en soi des preuves religieuses, bien qu'elles aient leur poids dans la charia, et qu'il est obligatoire de s'en aider afin de comprendre la religion. Sois bien attentif à tous les termes, barakallahu fik. Les paroles des ulama ne sont pas en soi des preuves religieuses, bien qu'elles aient leur poids dans la charia, et qu'il est obligatoire de s'en aider afin de comprendre la religion. Il n'est pas correct ici de se contenter de dire ce ne sont pas des preuves en soi. Car à partir de là, il y a des gens qui se permettent de rejeter tout ce qui ne va pas dans le sens de leurs intérêts. À partir du moment que considèrent que les paroles des ulama en soi, ce ne sont pas des preuves. Donc ils disent ce n'est pas une preuve. Donc ils rejettent ça. Ce n'est pas correct. Car les paroles des ulama ont leur poids dans la charia. Il est obligatoire de s'en aider afin de comprendre la religion. Et il n'est pas correct non plus de considérer les paroles des ulama comme étant des preuves en soi, au même titre que les textes du Coran et de la Sunna. Deuxième mal que l'on retrouve parmi les mots résidant dans cette manière d'argumenter, c'est que c'est une manière effrontée de confronter les ulama. Troisièmement, c'est un manque de respect vis-à-vis du savant dont on délaisse la vie argumentée. Et quatrièmement, c'est un manque de considération à l'égard de l'argumentation scientifique. Entrons à présent dans le vif du sujet. Les cheikhs Al-Albani et Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont bel et bien utilisé l'expression de l'éveil islamique. Le dernier cité y a même consacré un ouvrage. Quant au cheikh Ibn Baz, il a répondu à une question dans laquelle l'expression est utilisée sans pour autant l'utiliser, en parlant plutôt quant à lui de mouvement islamique. Cependant, et c'est là un point déterminant dans la question, distinguant le discours de ces cheikhs de celui de ceux qui utilisent cette expression afin de soutenir que la communauté aurait dans son ensemble été endormie ou inactive avant l'apparition de cet éveil, ce point-là, c'est qu'il apparaît clairement dans le discours des trois cheikhs cités que ce n'est pas un éveil généralisé qui est visé, mais bien l'éveil d'une partie de la communauté. De plus, ils n'ont en aucun cas qualifié la communauté d'endormie ou d'inactive. Quant à l'ouvrage du cheikh Ibn al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est, comme son titre l'indique, un ensemble de règles et de conseils relatifs à cet éveil islamique, dans le sens non généralisé du terme, et non pas dans le sens que lui donnent ceux qui soutiennent l'endormissement ou l'inactivité généralisée de la communauté. Revenons aux propos tenus dans la vidéo de présentation du projet Jannah TV que j'ai critiqué. Après avoir exposé la situation alarmante des musulmans en France, l'auteur de la vidéo dit, je cite, j'ouvre les guillemets, à qui la faute ? Certainement à la communauté musulmane inactive depuis tant d'années, laissant les autres agir et parler en son nom. Fin de citation. Ce discours va-t-il dans le sens du discours des ulama cités ? Penchons-nous à présent sur le fait que le cheikh Ibn al-Uthaymin ait répondu au fait d'argumenter par le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Il ne cessera de perdurer une faction de ma communauté secourue dans son attachement à la vérité. » Le cheikh a dit, je cite, « Non, cette expression, c'est-à-dire l'éveil islamique, ne s'oppose pas à ce hadith, car le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « Ma communauté ne cessera de perdurer attachée à la vérité », mais il a plutôt dit « Une faction, ma communauté ». Cela signifie qu'il y a d'autres factions qui ne sont pas attachées à la vérité. Il y a donc chez les gens un éveil qui est relatif à l'état de leur situation avant l'apparition de cet éveil. Et il n'y a aucun mal dans cette expression. Il n'y a aucun mal, dit le questionneur. En aucun cas, poursuivit le cheikh. Le hadith dit « Ne cessera de perdurer une faction de ma communauté » et ne dit pas « Ma communauté ne cessera de perdurer ». Il y a une différence entre les deux phrases. Et il est possible que nous soyons dans un pays dans lequel la religion est apparente et que dans un autre pays, ce soit l'inverse. Fin de citation. Confrontons à présent les propos tenus dans la vidéo de présentation de Jannah TV à cette réponse du cheikh Ibn al-Uthaymin. Premièrement, bien que le cheikh reconnaisse la validité de l'expression éveil islamique, il ne lui donne pas le sens visé par bon nombre de ceux qui l'utilisent, notamment les leaders et membres du parti d'Al-Ikhwan al-Muslimoun, qui quant à eux, comme nous l'avons vu, lui donne une portée générale et vise par l'éveil en question les efforts que eux-mêmes fournissent dans la promotion de leur méthodologie corrompue. Deuxièmement, la réponse du cheikh indique clairement qu'il n'est pas correct de considérer la communauté dans son intégralité endormie ou inactive. Où en sont les responsables de Jannah TV à ce niveau ? Rejoignent-ils le discours du cheikh en disant à qui la faute ? Certainement la communauté musulmane inactive depuis tant d'années, laissant les autres agir et parler en son nom, ou voit-il plutôt le sens de leurs propos s'apparenter au sens rejeté par le cheikh? On pourrait émettre l'objection suivante. Le cheikh n'a-t-il pas dit qu'il est possible que nous soyons dans un pays dans lequel la religion est apparente, et que dans un autre pays ce soit l'inverse? À partir de là, ne peut-on pas considérer que la phrase présente dans la vidéo de Jannah TV est, dans notre contexte, appropriée? Je dis en réponse non. Et affirmer le contraire reviendrait à dénigrer les efforts fournis depuis longtemps par les prédicateurs salafis. Et c'est justement cela que j'ai critiqué dans l'audio intitulé « Gare aux prétentions en matière de connaissances et d'instruction ». regard critique porté sur la présentation du projet télévisé Jannah TV. C'est certes Allah seul qui prodigue la réussite. Le cinquième point est intitulé « À propos du projet Jannah TV ». J'ai précédemment souligné que je n'ai essentiellement abordé que la présentation de ce projet en critiquant certains propos qui y furent tenus. J'ai également fait allusion au fait que les acteurs de ce site sont inconnus, ce qui en soi devrait suffire pour s'abstenir de le soutenir ou de le consulter, du fait qu'il n'est pas possible de déterminer l'aptitude des 10 acteurs. Le seul nom qui est cité est celui de Mohammed Abou Muslim. Personnage aux tendances déviantes, qui relaie sur les réseaux sociaux les publications de plusieurs cheikhs du mouvement Tabligh, mais aussi de Imran Hussein, de Adnan Ibrahim, de Mohammed Hassan, voilà de Deddou, de Saïd Al-Kamani, de Abdelaziz Al-Tarifi, de Tariq Ramadan, de Mohammed Bajrafi, de Nader Abu Anas et d'autres parmi les prêcheurs à l'égarement. C'est le seul nom qui est cité, c'est donc c'est Mohammed Abu Muslim. Il m'a été rapporté qu'il aurait été licencié. Si c'est le cas, deux remarques se dégagent. La première, que fait son nom sur le site? Nombreuses modifications y ont été apportées, notamment depuis la publication de ma critique et de leurs réponses, mais le nom de Mohammed Abou Muslim est toujours présent. Donc si réellement ils l'ont licencié, que fait son nom sur le site? Une personne droite, si elle se rend compte qu'elle a commis l'erreur grossière de faire appel à quelqu'un de ce genre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'empresse de la licencier et de supprimer son nom et de s'assurer que son nom a bien disparu du site. Et la deuxième question, c'est que si effectivement il a été licencié, nous revenons au problème du fait que le site est cette fois-ci totalement composé d'intervenants à l'identité inconnue. Si par contre il s'avère qu'il est toujours le gérant de l'équipe de traduction, le lecteur s'interrogera certainement sur le paradoxe résidant dans le fait qu'un projet de site salafi soit géré par un tablighi aux tendances aussi diverses que déviantes. À propos du contenu de ce site, voilà comment il est présenté. J'ouvre les guillemets. La chaîne Jannah Télévision se contentera de contenu mettant à l'unanimité l'ensemble de la communauté. Par conséquent, toute diffusion portant à divergence ou à ambiguïté sera catégoriquement évitée afin de respecter les critères de tous les téléspectateurs musulmans, quel que soit leur degré d'avancement religieux. Là aussi, plusieurs remarques d'envergure peuvent être émises. Premièrement, la non-conformité à la méthodologie du Coran et de la Sunna, qui se veut source de distinction entre le vrai et le faux, la bonne direction et l'égarement. Comment lutter contre le faux et le réfuter ? Si on ne présente qu'un contenu mettant à l'unanimité l'ensemble des musulmans dans les rangs desquels la division s'est installée, comme l'avait annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, cette présentation recèle de similitudes flagrantes avec la règle hérétique instaurée par les leaders du parti d'Al-Ikhwan al-Muslimoun. Règle soutenant que les membres du parti s'entraident dans ce à propos de quoi ils s'accordent et se pardonnent mutuellement ce sur quoi ils divergent. De même qu'elle va dans le sens du discours de l'égaré Abul Hassan al-Ma'ribi, qui prônait une voie large et vaste, qui conviendrait à la fois aux adeptes de la Sunna et à autre que, méthodologie à partir de laquelle il en vint à inclure Al-Ikhwan al-Muslimoun, l'établir et autres sectes dans la sphère des adeptes de la Sunna. Voilà donc certains points sur lesquels je voulais me pencher, certains éléments supplémentaires que je souhaitais apporter. Et je voudrais clôturer cette réponse en attirant l'attention du lecteur vers l'importance de plusieurs points. Premièrement, le fait de concrétiser le principe de crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'en faire notre priorité. Deuxièmement, l'importance du fait d'apprendre la religion à sa source. Troisièmement, l'importance d'accorder une attention toute particulière aux règles régissant la méthodologie à laquelle nous adhérons, la méthodologie de la salafia. Il est certes inquiétant de constater que certains principes basiques de la salafia ne soient pas correctement assimilés par certaines personnes se réclamant de la salafia. Et quatrièmement, connaître un minimum l'histoire de la salafia et des troubles causés par ses opposants sur la scène internationale et francophone, afin de ne pas se retrouver à condamner des gens tout en les rejoignant dans certains aspects de leur discours erroné. Et je demande à Allah de nous enseigner sa religion et de nous préserver des troubles et dissensions et de ne nous renvoyer à lui qu'en étant agréé par lui, tout comme je lui demande de guider les musulmans s'étant écartés du droit chemin. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et cette réponse a été enregistrée la nuit du 5 du mois de Shawwal de l'an 1437 de l'Hégire.